Galates chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, mais en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. On est dans cette série, les valeurs de l'EBTM, et on a traité le premier E avec cet épître aux Galates. L'évangile est au cœur de notre pensée, de notre église, de nos réflexions, de notre ministère. Mercredi dernier, alors que le matin, j'ouvrais ma Bible pour étudier ce passage, travailler ce passage, un jeune frère me téléphone et il me dit « Oh, c'est pas facile. C'est pas facile à dire. Mais j'ai un problème avec le sexe. Je sais plus comment m'en sortir. » Mon pasteur m'a dit de lire la Bible, mais ça change rien. Imaginez la détresse de ce jeune homme. Pour que, malgré ses efforts, il confesse son problème et recherche du secours. Ce n'est pas la première fois qu'on vient me trouver sur ce même sujet. Mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas venus et qui connaissent la même difficulté, les mêmes luttes. Et puis il y a aussi tous ceux qui connaissent les luttes autres que celles-là, avec leur propre chair. Et là, je crois que nous sommes tous concernés comme l'étaient aussi tous les destinataires de cette lettre aux Galates. Certains sont pris au piège de l'amertume, de la colère, de la rancœur. Et tous les jours, ça gangrène leur cœur et ils n'arrivent pas à avoir la victoire. La pensée que je souhaite développer ce matin est la suivante. C'est en conservant l'Évangile au centre de notre vie que la vie de l'Esprit se manifeste. C'est en conservant l'Évangile au centre de notre vie, de notre attention, que la vie de l'Esprit se manifeste. J'aimerais que l'on regarde ce matin trois points, trois questions. La première, quelle est la solution à cela, à cette bataille qui se livre? On verra ensuite, qu'est-ce que marcher selon l'Esprit? Et enfin, qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie? Alors, quelle est la solution? La solution, elle nous est donnée ici au chapitre 5 et au verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Est-ce qu'on peut être plus clair? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les mauvais désirs de la chair. C'est la réponse que j'ai donnée à cet homme. Mais peut-être on se dit, mais il faut développer là. Ça a l'air tellement simple, ça a l'air tellement clair ici. La chair, c'est la nature humaine privée de l'Esprit de Dieu, dominée par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, mais aussi les sentiments, la volonté de l'homme. Cette chair, elle existe encore chez le croyant. Et c'est cela, notre bataille. Notre chair est encore vivace. Elle ne peut être ni améliorée, ni sanctifiée. Il faut qu'elle soit tenue en échec. La chair est responsable de tous nos problèmes. Regardez chapitre 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Toutes ces choses qui peuvent batailler dans notre cœur proviennent de notre chair. Toutes nos difficultés sont liées à la chair. Chaque mauvaise action, chaque mauvaise parole, toute idée fausse, chaque mauvaise réaction, chaque mauvaise émotion, chaque mauvaise attitude vient de la chair. La raison pour laquelle nous avons des difficultés dans le mariage, la chair. La raison pour laquelle on a des difficultés dans la famille, la chair. La raison pour laquelle on a des difficultés à travailler ensemble, la chair. Tout péché et toute forme de péché, toutes les mauvaises habitudes, toutes les pensées mauvaises, toutes les paroles méchantes, toutes nos mauvaises actions proviennent de notre chair. Maintenant, la solution, c'est l'Esprit, la vie par l'Esprit. Marchez donc selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est une vérité essentielle de la vie chrétienne. C'est la vie de l'Esprit, la relation avec l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre la vie chrétienne d'une manière victorieuse. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs, croyez simplement la parole de Dieu. Elle dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Israël a cherché ailleurs. Et le Seigneur, par la bouche du prophète Jérémie au chapitre 2 et au verset 11, il dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Écoutez, et mon peuple a changé sa gloire. La gloire d'Israël, c'est Dieu, Dieu lui-même. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Et Dieu prend ici le ciel à témoin et dit, « Cieux, soyez étonnés de cela, mais frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Seigneur Jésus, lors de la fête des tabernacles, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, s'est levé et il s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Christ a envoyé le Saint-Esprit lorsqu'il a été glorifié, lorsqu'il est monté au ciel. Depuis, ceux qui croient au Seigneur Jésus reçoivent par l'Esprit la capacité à mener une vie nouvelle. Notre salut a été l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Et notre vie chrétienne est également une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Et c'est là toute la bataille que mène l'apôtre Paul dans le livre aux Galates. Il dit au chapitre 3, et ça c'est probablement le verset clé de l'Épître, il dit « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Il dit vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous avez goûté au salut par l'Esprit, et maintenant vous voudriez vous perfectionner, vous voudriez vous sanctifier par la chair, ça n'a aucun sens. Voilà comment la traduction Semeur traduit, il dit « Manquez-vous à ce point d'intelligence, après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection ?» Non ! On ne peut pas être sauvé par l'Esprit et être perfectionné par la chair. Un croyant ne peut pas plus se sanctifier lui-même qu'il n'aurait pu se sauver lui-même. Il ne peut pas plus vivre la vie chrétienne à partir de ses ressources qu'il n'aurait pu se sauver au moyen de ses ressources. La vie chrétienne fidèle est une vie vécue sous la direction et dans la puissance du Saint-Esprit. Mais alors, deuxième question, qu'est-ce que c'est que marcher selon l'Esprit ? Marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce que c'est ? Marcher selon l'Esprit ? Verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Première chose, marcher selon l'Esprit, ce n'est pas vivre sous la loi. Vivre sous la loi, c'est vivre selon la chair et non selon l'Esprit. La chair, elle est capable de sacrifice. La chair, elle est capable d'effort. La Bible dit « Le juste vivra par la foi ». La loi produit soit l'orgueil et la suffisance lorsqu'on arrive à y obéir pas trop mal, soit la loi produit le désespoir quand on n'y arrive pas. Mais la plupart du temps, la loi produit l'hypocrisie parce qu'on fait mine d'y arriver. On s'attache à l'aspect extérieur des choses au lieu de s'attacher au cœur. C'est ce que Jésus dénonçait chez les pharisiens en les traitant de sépulcres blanchis. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce que c'est que marcher selon l'Esprit ? Ça n'est pas vivre sous la loi, mais ça n'est pas vivre non plus sans loi. Regardez chapitre 5, verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, l'apôtre il dit, c'est pas parce qu'on est plus sous la loi qu'on ne vit sans loi ou qu'il n'y a aucun précepte dans notre vie. On vit sous la loi de l'amour, la loi de Christ, celle qui nous pousse à aimer notre prochain. Marcher selon l'Esprit demande de l'obéissance, demande de la discipline. C'est la loi de Christ, l'amour qui nous guide. Mais la réponse, à cette question « Qu'est-ce que marcher selon l'Esprit nous est donné ?» au verset 24 et 25. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Qu'est-ce que c'est que marcher selon l'Esprit ? C'est crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Alors là, peut-être ça ne vous éclaire pas plus. Qu'est-ce que ça signifie crucifier ici ? Ça ne signifie pas que notre chair est morte d'une manière absolue. Parce que si elle était morte d'une manière absolue, nous n'aurions pas de tentation. Nous n'aurions pas de combat à mener. Et même l'apôtre Paul, modèle pour les chrétiens, il dit lui-même dans l'épître aux Romains, je lis peut-être quelques versets, aux Romains chapitre 7, verset 17, « Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, mais, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Il dit, « Je lutte, et parce que je lutte, c'est clairement que crucifier, ceux qui ont crucifié la chair, ce n'est pas cette idée que la chair est complètement inopérante. » Non, c'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Je crois que ici, Paul, il pousse les chrétiens à porter leur regard sur la croix de Christ. Parce que c'est là où la chair a été condamnée. Et c'est quand nous portons les regards sur Christ crucifié que nous marchons selon l'Esprit. Je répète ça, c'est... Si vous retenez que ça, c'est quand on porte nos regards sur Christ crucifié que nous marchons selon l'Esprit. C'est l'Évangile qui réduit notre chair à l'impuissance. Je vais essayer d'expliquer ça. Qu'est-ce que c'est regarder à Christ ? Ou qu'est-ce qui se passe quand je regarde à Christ ? Christ crucifié nous enseigne que nous sommes pécheurs au plus haut point. Christ crucifié nous enseigne que rien en nous ne pouvait nous sauver, sinon Jésus-Christ n'aurait pas été crucifié. Christ crucifié nous enseigne que nos mérites, nos efforts, nos souffrances sont totalement incapables de nous sauver. Si elles l'étaient, Christ n'aurait pas été crucifié. Christ crucifié nous enseigne que le péché est horrible, qu'il est une offense terrible envers notre Créateur. Le salaire du péché, c'est la mort de la croix. Et si le péché n'était pas horrible, la peine pour le péché ne serait pas horrible. Mais relisez les évangiles, et vous verrez combien c'est horrible, les souffrances de la croix. Christ crucifié nous enseigne que l'amour de Dieu pour le pécheur est infini, infini. Quand on regarde à la croix, quand on regarde ce que méritaient nos crimes, et quand on voit que Dieu a payé pour nous, on se sait véritablement aimé, aimé d'une manière incroyable. Dieu ne veut pas que l'homme meure, et voilà pourquoi il a donné son Fils à notre place. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour sauver un pécheur. Et Christ n'est pas seulement mort sur la croix, mais aussi il est ressuscité. Et Christ ressuscité nous enseigne que la justice de Dieu a été satisfaite. Christ ressuscité nous enseigne que le pardon nous est acquis. Christ ressuscité nous enseigne que je peux vivre une vie nouvelle réconciliée avec mon Dieu par la foi en Jésus mon Sauveur. Maintenant, Paul dit, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. » Ailleurs, en Colossiens, chapitre 2, verset 6, il dit, « Comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. » Ça signifie que la manière dont on s'est approché le premier jour de notre salut, de la croix de Christ, saisissant le pardon qui nous était offert, simplement croyant ce que Jésus-Christ avait fait, délaissant mettant de côté tous nos efforts humains, toutes nos bonnes œuvres sur lesquelles autrefois on s'appuyait, tout notre héritage, laissant tout cela de côté, on s'est simplement confié en Jésus-Christ. Et Paul dit, ce que vous avez fait le premier jour, faites-le le deuxième, le troisième, le quatrième, tous les jours de votre vie de chrétien. C'est cela, marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair, parce que lorsque vous êtes au pied de la croix, fixant vos regards sur le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a accompli pour vous, les désirs de la chair meurent. Les mauvais désirs de la chair sont crucifiés à ce moment-là. Et c'est pour cela que l'Évangile doit être au cœur de notre vie, pas simplement le premier jour de notre vie, mais tous les jours de notre vie de croyant. Et c'est par ce moyen-là, par cette attitude à la croix, que l'on va trouver une pleine délivrance. Quand nous avons compris ces choses, nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons cru et nous avons adoré. Nous ne sommes pas confiés dans notre obéissance imparfaite à la loi. Nous ne sommes pas confiés dans notre pratique religieuse. Nous nous avons simplement cru en Jésus-Christ et nous nous sommes reposés en lui et dans sa grâce. Marchez alors de la même manière, sans vous prévaloir d'aucun mérite, d'aucune expérience ou connaissance acquise, mais simplement confiez-vous en Christ et dans sa grâce, reconnaissant que vous n'avez aucun mérite. Et dans ce cas-là, vous pouvez alors marcher libre, libre du péché, parce qu'à la croix, on a été libéré. Le péché a été jugé et condamné, et nous avons été pardonnés. Marchez justifié par son sang, marchez joyeux, comme au premier jour. Voilà ce qui remplit nos cœurs d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. C'est quand on est au pied de la croix et quand on est centré sur l'Évangile de Jésus-Christ. Voilà ce qui est répandu dans notre cœur. Marcher selon l'Esprit, l'idée, ici, il a choisi ces mots à dessein. Il a dit « marcher ». Marcher, l'idée est intéressante. D'ailleurs, dans les épîtres de l'apôtre Paul, dans chaque épître, pratiquement, vous pouvez trouver cette expression « marcher comme des enfants de lumière », « marcher dans l'amour », « marcher d'une manière digne de Jésus-Christ », « marcher d'une manière digne de l'Évangile ». Partout, on entend « marcher, marcher, marcher ». Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit d'une action constante, c'est-à-dire une action chaque jour répétitive. Qu'il me faut regarder à Christ crucifié, moi, chaque jour de ma vie. C'est ce qui doit inspirer mes actions, mes paroles, mes pensées à chaque instant. Et puis, marcher aussi contient cette idée de progression. Nous ne sommes pas arrivés. Nous n'avons pas atteint la perfection. Marchons encore. Marchons encore aujourd'hui. Regardons à Christ. Et encore. À Christ. Et encore. À Christ. Et nous allons progresser dans une meilleure connaissance de sa grâce. Vous comprenez? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qui provoque l'envie? Qu'est-ce qui provoque la jalousie, les disputes, les divisions, les animosités, toutes les œuvres de la chair? C'est précisément lorsqu'on quitte le terrain de la grâce. Ça, c'est important à comprendre. Si je quitte le terrain de la grâce, alors je vais produire dans mon cœur toutes les œuvres de la chair. Quand je quitte le terrain de la grâce, alors je pense mériter quelque chose. C'est cela. Et quand je pense mériter quelque chose, et qu'on me refuse ce quelque chose, alors je nourris de l'envie, je nourris de l'amertume. quand je quitte le terrain de la grâce, quand je pense mériter quelque chose, et que ce quelque chose, on le donne à un autre, qu'est-ce qui se produit dans mon cœur ? La jalousie. Seigneur, moi je suis là tout le temps. Lui, il est là de temps en temps et voilà. Et lui, tu le bénis et moi, tu ne me bénis pas. Ah mais c'est parce que tu as quitté le terrain. Tu as quitté le terrain de la grâce. Tu t'approches plus comme au premier jour. Tu t'approches avec tes œuvres. Tu t'approches avec tes mérites. Et ça, ça produit des œuvres de la chair, la jalousie. Et dans ce cas-là, quand je suis jaloux, ben je conteste. Et je produis tous les autres. L'animosité, les disputes, les querelles, etc. L'Évangile seul, lorsqu'il est au cœur de notre pensée, nous permet de marcher selon l'Esprit. C'est lorsqu'on oublie Christ et la manifestation de son amour incommensurable pour nous à la croix, quand on se tourne vers des faux dieux, les faux dieux du sexe, de l'argent, du pouvoir. Là, il est dit que les œuvres de la chair sont l'idolâtrie. Et Paul dit en Éphésiens que l'amour de l'argent est une idolâtrie. Il est dit ici, il est parlé de la magie. Le mot magie ici, c'est pharmakeia. C'est plutôt les drogues. Vous savez, quand on fait de la magie, vous n'en faites pas. Hein. on fait un filtre d'amour. Ça, c'est de la magie. C'est de la pharmacie. On mélange des trucs et puis voilà. Aujourd'hui, on fait de la pharmacie, on fait de la magie. On mélange des cocktails et puis... prendre l'ecstasy, on prend des drogues et alors là, on plane. C'est ça ici, la magie. Quand on se tourne vers des faux dieux, le pouvoir, et même la table ici, hein, dans lequel on va chercher notre refuge, ou notre bonheur, notre réconfort. Celui qui tombe dans l'ivrognerie, dans la boisson, qu'est-ce qui se passe ? À un moment, il est abattu pour une raison ou pour une autre. Et où est-ce qu'il va chercher le réconfort, le secours pour son âme ? Dans un faux dieu. Il pense que ce dieu-là, un verre de plus ou une bouteille de plus, ça va le soulager. C'est Jésus-Christ qui nous soulage. C'est Jésus-Christ qui peut prendre soin de nous. Celui qui tombe dans la pornographie, dans des sexes, tout le dévoiement sexuel, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche, à ce moment-là, il cherche du secours auprès, ou son bonheur, auprès d'un faux dieu. Et l'instant d'après, il est misérable, il est coupable, il est troublé au plus profond de son cœur. Et c'est ce qui se passe chaque fois qu'on se détourne du Seigneur pour des idoles. On les sert, on leur obéit et puis on est déçu. Jésus seul peut satisfaire notre âme. Et c'est en conservant l'Évangile au centre de notre vie que la vie de l'Esprit se manifeste. Comprenez ça. Qu'est-ce que c'est que marcher par l'Esprit ? C'est placer Jésus-Christ, son Évangile, au cœur de ma vie. Alors qu'est-ce que ça change concrètement ? Regardez les versets 26. « Ne cherchons pas à une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Vous voyez, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change notre regard sur le pécheur. Ici, il y a cette expression « surpris en faute ». Peut-être surpris en flagrant délit. Ou bien, je pense que c'est davantage cela, pris au piège du péché. La version Darby traduit ainsi, quelqu'un qui s'est laissé surprendre par quelque faute. Ah, je crois que c'est... Frère, si un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire vous qui marchez selon l'Esprit, redressez-le avec douceur. C'est-à-dire, remettez-le sur ses pieds. Il a besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'être piétiné. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, les pharisiens et les docteurs de la loi ont trouvé une femme adultère. Ils la traînent dans le temple, ils la jettent au milieu de la foule devant le Seigneur Jésus. Et il dit, toi, Rabbi, Moïse nous a prescrit qu'on doit lapider une telle femme. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Vous voyez l'attitude? Une telle femme, une telle pécheresse. Nous ne sommes pas ce genre-là. La loi, elle fait ça. La loi, on l'utilise pour se démarquer des pécheurs. Et quand on se démarque des pécheurs de la sorte, on est incapable d'aider les pécheurs. Quand on vit par l'esprit, on est capable de redresser avec un esprit de douceur. Quand on est tombé et qu'on a un os cassé, quand on a besoin d'une attelle, d'un plâtre, c'est ça le sens de redresser. On s'attend à ce que le chirurgien le fasse avec douceur, en tout cas sans provoquer des douleurs supplémentaires ou inutiles. Et puis il ajoute, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Au fond, il dit, rappelle-toi que ça pourrait être toi qu'on doive relever ou redresser. Celui qui marche selon l'esprit, il est devant la croix et il dit, quelqu'un m'a redressé. C'est Jésus-Christ. Moi, j'étais en pire encore, complètement à terre, et quelqu'un m'a redressé. Il l'a fait avec douceur. Alors, quand je redresse mon frère qui est tombé, je m'efforce de le faire avec douceur. Quand on est sur le terrain de la grâce, on sait que ça pourrait être nous. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ces hommes qui étaient venus accuser cette femme? Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 7, il dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et c'est cela, vivre par l'esprit, c'est dire « Seigneur, ça pourrait être moi. » Et peut-être que dans le passé, c'était moi. En tout cas, quand je suis venu à la croix, c'était moi. Et tu m'as aimé. Et puis tu m'as relevé. Et tu l'as fait avec douceur. Ça change aussi notre regard sur notre frère. Regardez verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Un frère qui est tombé a besoin qu'on l'aide à retrouver l'équilibre. Il faudra l'aider, l'entourer. Il a peut-être un fardeau lourd. Il a peut-être un passé douloureux. Il a peut-être une bataille terrible à mener contre le péché. Et il n'y arrive pas tout seul. Il est pris dans les filets de l'amertume, de l'addiction ou je ne sais quoi. Quand on se tient sur le terrain de la loi, on use des difficultés de nos frères pour montrer qu'on y arrive mieux que les autres. Vous vous souvenez du pharisien et du publicain qui montent au temple? Ah, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Certainement pas comme ce publicain. Moi, je jeûne 3 fois par semaine, tu sais bien. Je donne la dîme de tous mes biens. Toutes mes œuvres sont là. Et on utilise l'autre pour s'élever. Et quand on vit avec l'évangile au cœur, on n'est plus du tout dans cette attitude. Quand on marche selon l'évangile, on regarde comme un devoir de secourir notre frère parce que Christ nous a secourus. Ça change notre regard aussi sur nous-mêmes. Ce sont les versets suivants. Il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. sa propre responsabilité sera jugée pour ce qu'il aura fait. La prétention peut coexister avec la morale, la moralité. Mais la prétention ne peut pas coexister avec la spiritualité, avec la marche selon l'esprit. Paul y dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. La prétention est le péché le premier sur la liste des six choses que Dieu a en horreur. Dans les Proverbes, chapitre 6, versets 16 et 17, il dit, il y a six choses que hait l'Éternel et même sept qu'il a en horreur. Première chose, les yeux hautains, ceux qui sont suffisants, ceux qui n'ont pas besoin des autres, ceux qui n'ont pas besoin de la grâce de Dieu au quotidien et de son sang qui nous purifie de toute souillure, de tout péché. Ça change aussi nos valeurs. Regardez verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La parole de Dieu, elle est plus profitable que les biens de la terre. Et c'est cela, je pense, le sens de cette parole. On ne fait pas passer la corbeille après la prédication chez nous. Mais il dit ici, là, il y a une... Quand on a goûté à la parole de Dieu, quand elle nous a relevés, quand elle nous a redressés, quand elle nous a fortifiés, quand elle nous a délivrés de la puissance du péché et de la chair, quand la parole remplit nos cœurs, alors on est tellement satisfait que les biens de la terre sont juste des instruments à partager, des choses à partager avec les autres. Et puis enfin, ça change notre manière de vivre. Versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On choisit la semence en fonction du fruit que l'on souhaite récolter. Si vous souhaitez récolter des citrouilles, il faut planter des graines de citrouille. Croyez-en un jardinier débutant. C'est la base du jardinage. Si vous ne connaissez pas ce principe, c'est sûr, ça va être compliqué, le jardinage. Maintenant, ce même principe est valable pour votre vie tout entière. Si vous semez des images pornographiques dans votre champ, vous allez récolter des fruits, les fruits de ces choses, à savoir l'addiction, la perversion sexuelle et le trouble qui vient avec. C'est sûr. C'est sûr. Si vous faites ça, c'est sûr. Vous allez récolter toutes ces choses-là parce que ça marche. Ça marche à coup sûr comme pour les citrouilles. Maintenant, si vous semez pour l'esprit, si vous semez les choses bonnes de l'esprit, si vous semez la parole de Dieu dans votre cœur, comme l'avait conseillé le pasteur de ce jeune homme qui m'a appelé mercredi, et en cela, c'était un excellent conseil. Si vous semez une vie de prière, si au quotidien, vous venez au pied de la croix, si je peux dire, j'aime pas trop l'expression parce que parfois on en oublie le sens, mais si vous mettez Christ et son évangile au cœur de votre pensée, si vous semez le service du Seigneur, si vous attachez vos cœurs aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, alors vous récolterez la vie éternelle. Si on sème pour la chair, on récolte la corruption. C'est-à-dire une situation toujours pire, toujours pire, toujours pire. Si on sème pour l'esprit, on récolte la vie éternelle. Mais pas la vie éternelle quand on meurt, hein. La vie éternelle immédiatement. La vie éternelle, c'est ça. C'est quand on croit, ça commence aujourd'hui, ça commence maintenant pour celui qui croit. La vie éternelle, c'est de connaître Christ. Alors la mort n'a plus aucun pouvoir. Et ça, c'est sûr. Si vous semez selon pour l'esprit, vous allez récolter la vie éternelle qui commence aujourd'hui, cette vie nouvelle. Vous allez récolter l'amour, vous allez récolter la joie, vous allez récolter la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi et tous les autres fruits de l'esprit. Toutes ces choses-là, vous allez les récolter. Et c'est sûr, c'est garanti comme pour les citrouilles. Verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et là, je pense qu'il y a une chose importante à avoir en tête. C'est que quand on sème pour la première fois, on met sa graine et le lendemain ou le soir même, on vient voir, pas de citrouille. On revient le lendemain, pas de citrouille. Et là on dit, est-ce que ça marche vraiment? Ça marche vraiment. Je l'ai fait dans mon jardin. Mais ça ne marche pas le jour où j'ai semé. Ça marche plus tard. Mais ça marche à coup sûr. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Et puis verset 10, il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Je voudrais juste relever ici, pendant que nous en avons l'occasion. Pourquoi est-ce que Paul il dit ça, pendant que nous en avons l'occasion? Parce que au ciel, on ne sèmera plus de semer. On ne fera plus de semaille. On récoltera seulement. Et donc, l'occasion qui nous est donnée de semer, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, dans l'attente du retour du Seigneur, semons, semons, semons pour l'esprit. Parce que la moisson arrive, c'est sûr. Alors, je termine là. Marcher, c'est un verbe à l'impératif. Et si Paul dit « marcher » et commande « marcher », ça veut dire que c'est possible de marcher selon l'esprit et de ne plus accomplir les désirs de la chair. C'est possible. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais on ne peut le faire qu'en portant nos yeux sur Jésus-Christ et en méditant sur son évangile. Et c'est ce que je voudrais vous laisser ce matin. Méditez l'Évangile, repassez-le sur votre cœur, jour après jour. Essayez de voir comment est-ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes éloigné, pensant mériter des choses, pensant qu'on vous doit des choses, que Dieu vous doit, ou que les frères vous doivent, ou que le monde, ou que la nature, ou que je ne sais quoi vous doit quelque chose? Non. Tenez-vous sur le terrain de la grâce où on n'a rien mérité et pourtant où tout nous est donné par amour. C'est ce dont nous avons besoin.